VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, arrivé au centre de transit de Gisuru, province de Ruyigi, dans l'est du pays, de 590 réfugiés burundais rapatriés de Tanzanie ce jeudi. Les intéressés ont quitté le territoire tanzanien ce matin dans un convoi de rapatriés volontaires, a déclaré à l'AFP un responsable du HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, sous couvert d'anonymat. Pour sa part, un responsable administratif burundais a précisé que les rapatriés seront acheminés dans leurs communes d'origine respectives demain avec un kit de vivres et autres produits de première nécessité pour 3 mois. Depuis la signature d'un accord tripartite avec la Tanzanie et le Burundi en août 2017 sur le rapatriement des réfugiés burundais en Tanzanie, le HCR a facilité le retour de plus de 74 000 réfugiés volontaires vers le Burundi. Des Burundais qui avaient fui en raison de la crise politique meurtrière dans leur pays à l'époque. Le porte-parole du gouvernement tanzanien, Hassan Abbas, a réitéré aujourd'hui qu'aucun réfugié burundais ne sera forcé de retourner dans son pays. Il reste encore en Tanzanie 225 000 réfugiés burundais répartis dans 3 camps situés dans le nord-est du pays, Nduta, Ntendeli et Nyarugusu. Visite du président du Nigeria Muhammadu Buhari en Afrique du Sud. Le leader nigérian a appelé ce jeudi au renforcement et à l'application des mesures de sécurité nécessaires à la protection des étrangers dans le pays. Un mois après la dernière vague de violences xénophobes qui ont fait le mois dernier 12 morts et entraîné le saccage de centaines de biens appartenant à des immigrants, principalement à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Le président Buhari a également condamné les représailles qui ont visé les intérêts économiques sud-africains au Nigeria lors de ses déclarations à la presse à l'ouverture des consultations qu'il a en ce moment même avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour sa part, le leader sud-africain a exprimé une nouvelle fois ses vifs regrets pour la violence qui a visé des étrangers dans certaines régions de son pays. Première puissance industrielle du continent africain, l'Afrique du Sud accueille des millions de migrants originaires du reste de l'Afrique ou d'ailleurs dans le monde. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant au Mali, deuil national de 3 jours à partir de ce jeudi après les combats sanglants du début de la semaine dans le centre du pays. Les attaques des islamistes armés contre 2 camps militaires à Boulkessi et à Mondoro près du Burkina Faso ont coûté la vie à au moins 25 soldats maliens et 78 autres sont portés disparus. Le 29 août, 26 soldats burkinabés avaient été tués à Koudougou, au Burkina, lors d'une incursion également attribuée à des djihadistes. Quels sont les groupes extrémistes islamistes les plus actifs dans les régions affectées? Idriss Fall s'est entretenu avec Baba Dakono de l'Institut d'études de sécurité à Bamako.
Oui, ces groupes agissent dans la bande frontalière Mali-Burkina et ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est cette dangereuse connexion qu'on observe entre Ansarou Islam, auquel groupe a été attribué l'attaque contre le détachement de l'armée burkinabée le 29 août, et également la Katiba Machina qui opère dans le centre du Mali, dans la zone de Boulkessi et de Mondoro.
Mais qu'est-ce qui dirige cette Katiba?
La Katiba Machina est dirigée par Amadou Koufa. Il y a une brigade au sein de cette Katiba qui est appelée Brigade Ferment, qui opère sous l'égide de Amadou Koufa, le leader de cette Katiba, qui lui appartient au grand groupe de soutien à l'islam et aux musulmans créé depuis mars 2017 et qui regroupe non seulement Ansar Dine, dirigé par Yad Agali, mais également la Katiba Massina, Al-Mouhamitoun et d'autres groupes extrémistes violents évoluant dans la zone. L'autre groupe qui agit du côté du Burkina et qui sera en connexion aujourd'hui avec la Katiba Massina dans le centre du Mali, c'est Ansarou Islam, longtemps dirigé par Malam Ibrahim Diko, avant d'être repris par son frère cadet Jafar Diko, après que Malam ait été tué par une opération militaire.
Jafar, il a une expérience militaire?
Jafar, il avait longtemps aux côtés de Malam Diko travaillé dans le centre du Mali. Et depuis 2012, quand ils étaient en connexion avec le Moujaou à l'époque, vers la zone de Douenza. Puis après, très très longtemps, ils se sont retirés dans une forêt qui se trouve dans la zone de Boulkessi, un peu au sud de la localité de Ombori. Il a longtemps bénéficié bénéficier certainement de renforcement de capacité d'un point de vue militaire de ses différents rapports qu'il a eu non seulement avec le Moundiao, mais plus tard également avec Ansardi.
Abou al-Sahraoui, dont on dit que lui aussi il opère plutôt vers le Niger, mais pourquoi on n'arrive pas à les arrêter ou les liquider?
C'est une grande question, mais au-delà de la liquidation de ses leaders, al-Sahraoui, donc qui incarne un peu l'État islamique dans le Grand Sahara, opérant au Niger, France, avec le Mali, notamment la région de Menaka, ou que ce soit Yaba Gali, paraissent aujourd'hui comme des figures emblématiques, mais qui paraissent également insaisissables. Mais au-delà de cette question, c'est l'engagement de milliers de personnes aujourd'hui à cette lutte armée et au discours qui est promu aujourd'hui par ces personnes-là. Donc même si on parvenait à éliminer physiquement ces personnes qui sont des figures emblématiques de cette lutte armée, le plus important, c'est de faire en sorte que l'engagement des personnes, notamment de certains acteurs locaux dans ces groupes, puisse s'arrêter, parce que c'est véritablement là l'enjeu depuis quelques années.
Baba Dakono de l'Institut d'études de sécurité, joint à Bamako par Idriss Fall. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique, la France cherche à convaincre ses partenaires européens d'envoyer des forces spéciales au Sahel pour fournir des mentors aux armées nationales, au premier rang desquelles les forces maliennes, victimes ces derniers jours d'une double attaque qui a fait au moins 25 morts dans leur rang. Pour Paris, dont l'armée est présente au Sahel depuis 2013, l'enjeu est majeur. La montée en puissance des armées maliennes, nigériennes et burkinabé est un préalable à terme à tout début de désengagement militaire français.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élections au Tchad. Les élections législatives pourront être organisées de manière réaliste au premier trimestre 2020. C'est ce qu'a affirmé le président de la CENI, la Commission électorale indépendante, lors d'un point de presse. Le président Idriss Déby Itno avait promis que ce scrutin, qui aurait dû se dérouler en 2015, selon la Constitution, aurait lieu avant la fin 2019. L'Assemblée nationale tchadienne est largement dominée par la majorité présidentielle. Afrique du Nord maintenant, au Maroc, plusieurs dizaines de protestataires ont manifesté devant le Parlement à Rabat pour demander la libération immédiate de la journaliste Hajar Raissouni, condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et sexe hors mariage. Les détails avec Michel Joseph.
La petite foule de féministes et défenseurs de droits humains a dénoncé devant le Parlement une justice aux ordres. Lundi, une jeune journaliste du quotidien arabophone Akhbar al-Yaoum a été condamnée, ainsi que son fiancé, son gynécologue, un anesthésiste et une secrétaire médicale. Hajar Raissouni dénonce un procès politique, assurant depuis le début avoir été traitée pour une hémorragie interne. Son gynécologue l'a confirmé devant le tribunal. Ses avocats estiment avoir démontré, contre expertise à l'appui, que l'affaire ne repose sur aucune preuve et compte faire appel. Un manifeste intitulé « Hors la loi », publié le 23 septembre pour dénoncer des lois obsolètes, n'a recueilli que 8400 signatures. En 2018, la justice marocaine a poursuivi plus de 14 500 personnes pour débauche, 3 000 pour adultère, 170 pour homosexualité et 73 personnes pour avortement.
Politique américaine pour terminer, sous la menace d'une procédure de destitution, le président américain Donald Trump a laissé éclater mercredi sa frustration en s'en prenant à Joe Biden, son possible adversaire démocrate au présidentiel de 2020. Le chef de l'exécutif américain a également accusé certains élus démocrates de trahison. Jean-Roger Bion.
Déterminés à maintenir la pression, les démocrates du Congrès ont menacé mercredi de forcer la Maison-Blanche à leur fournir des documents qu'ils réclament dans le cadre de l'affaire ukrainienne. En réponse, le président Trump a dit que M. Biden et son fils sont de vrais escrocs. Très agressif, M. Trump a largement esquivé les questions des journalistes sur le fond du dossier, c'est-à-dire la demande faite par téléphone à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'enquêter sur les activités du démocrate Joe Biden et de son fils Hunter. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et l'avocat personnel du président Rudy Giuliani, au cœur de ce dossier, refusent le calendrier fixé par les élus démocrates du Congrès. Interrogé sur cette affaire lors d'une conférence de presse à Rome, le secrétaire d'État, qui a lui-même fait l'objet d'une injonction formelle de 3 commissions du Congrès, a laissé planer le doute sur les suites qu'il donnerait à leur demande de documents. Au Capitole, siège du Congrès, l'inspecteur général du département d'État, Steve Linick, a, lors d'une réunion qu'il avait lui-même demandé en urgence, présenté des documents liés à l'affaire ukrainienne. Il a notamment partagé le contenu d'une enveloppe siglée Maison Blanche, renfermant de fausses informations et théories du complot sur Joe Biden et l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Kiev, Marie Yovanovitch.
Merci Jean-Roger Bion.